des visages de l'Algérie, traverser ses couleurs, raconter ses légendes, ses dents, des villes et des histoires. Des villes et des histoires, une émission produite par Melika Lafer, réalisée par Saïd Boutelfa.
Évoquer le sud algérien, avec ses immensités désertiques et ses merveilles créées par Dame Nature, notamment le Tassili Najer, ce vaste plateau est l'un des mystères de l'Algérie depuis 8000 ans. Peinture et gravure rupestre parmi les plus belles au monde. Un témoin à ce jour de ce monde antique ancestral n'est autre que l'immense plateau du Tassili Najer, autrement dit cette forme ancienne, préhistorique de discours émotionnel, artistico-littéraire à sa manière des temps anciens, ou forme traditionnelle de communication artistique et spirituelle qu'est l'art proto-historique. De l'écriture idéographique et pictographique des parois rocheuses antiques de l'immense plateau du Tassili Najer. Ce royaume le plus grand, le plus haut, le plus riche de plateaux occupe dans le sud algérien une superficie double de celle de la Suisse. Grimper à près de 2000 mètres d'altitude, repousser les voitures et faire fantasmer les lecteurs acharnés de Théodore Monod, Henri Lotte, qui rêvent d'y dénicher leur tour, peinture et gravure, trace ultime de la vie douce et fertile au Sahara il y a plusieurs années. Parler de l'art rupestre tassilien, dont on attribue la découverte aux missions européennes, est familier aux tribus nomades qui parcouraient le Tassili Najer, notamment la tribu des Kelmedek, aujourd'hui installée à Aïn Ababa, à quelques kilomètres de la ville de Janet, après les terribles sécheresses des années 1970. Donc, c'est sur la trace de l'emblématique guide issu de cette tribu, Jebrin, véritable héros pour les Touaregs, qui fit découvrir ce site exceptionnel à Henri Lotte. Grâce à lui, le chercheur du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris révéla ce joyau de l'art rupestre au grand public en 1958. Le parc national du Tassili est habité, la densité y est faible, mais plusieurs petits centres de culture profitent des vallées abritées. On y pratique de l'élevage, du petit bétail et un peu d'agriculture. Le Tassili Najer est un massif montagneux du sud-ouest de l'Algérie, couvrant près de 1200 km². Les roches, fortement érodées, émergent des dunes de sable, donnent un étrange aspect lunaire à la région. Beaucoup de plantes médicinales subsistent et nous avons vu que les habitants leur portent un grand intérêt. Il nous est arrivé d'avoir parfois quelques précisions sur ces plantes et leur usage, mode de préparation et remède pour les types de maladies. En fait, il s'avère que la plante médicinale garde encore sa place, mais nécessite des recherches exhaustives, même si nombre de scientifiques s'y sont intéressés depuis le siècle dernier, le terrain reste à explorer. Le parc national du Tassili, premier parc de l'Algérie indépendante, première institution opérationnelle de la production du patrimoine, L'Algérie a adhéré à la Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO dès 1972. Elle a eu pour souci de préserver des valeurs que le patrimoine véhicule. Comment préserver cette culture? Comment la sauvegarder? C'est ce que nous avons demandé au directeur de l'OPNT, M. Salah Mokhlad. Monsieur Amran Salah, vous êtes directeur de l'Office du Parc National du Tassili et de formation préhistorien. Alors avec vous, on va raconter un petit peu l'histoire de ce parc qui a été inscrit parmi les biens du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1982 et puis réserve de la biosphère dès 1986 par l'AMAB. Alors, monsieur Amran, qu'est-ce qui fait le fait qu'il soit inscrit parmi les biens du patrimoine mondial à l'UNESCO? Est-ce que vous pouvez nous présenter le parc?
Donc, le parc a été créé en 1972, donc par décret présidentiel. Il faut savoir que le parc national du Tassili, c'est le premier parc national de l'Algérie indépendante. À l'indépendance, donc, il y a eu, donc, sur le plan juridique, se rapportant à la protection des sites et monuments historiques. Ça, sur le plan juridique. Maintenant, sur le plan institutionnel, en dehors des musées, donc, hérités de l'époque coloniale, l'institution, mise en place par l'État indépendant, c'est le Parc national du Tassili. Donc, on peut dire que c'est la première institution opérationnelle de protection du patrimoine national pour préserver donc le riche patrimoine. Essentiellement à l'époque, c'est ce qui est connu, ce qui était connu de l'époque, c'était les milliers de peintures et de gravures rupestres. Mais par la suite, donc il y a eu donc toute une extension du territoire du parc pour englober donc une superficie de 80 000 km² et aussi englober donc les différentes donc manifestations que soient culturelles humaines, donc par rapport à tout ce qui est patrimoine culturel, et aussi intégrer les richesses et le patrimoine naturel. Donc ce qui a amené les autorités à proposer, parce que il faut savoir que la proposition vient de l'État, c'est pas l'UNESCO qui classe, mais sur proposition des pays. Donc il y a une liste donc qui est proposée par chaque pays et des dossiers. Et c'est pas l'UNESCO qui vient classer, parce qu'on a l'impression que c'est les étrangers qui partent dans d'autres non, parce que le classement souverain, c'est un pays qui adhère. Donc l'Algérie a adhéré à la convention de 72, la convention du patrimoine mondial, et à partir de là, donc elle a proposé des sites au classement. Donc parmi les sites classés, donc il y a eu en 80
Il n'y a pas de travail, comme on dit. Alors, ils sortent, les hommes, ils sortent. Mais ils restent un an, deux ans. Alors, la femme, elle reste seule, parce que la femme, ici, chez nous, enfin, à l'Ouest, notre tradition, tout le monde commande à la femme. Tout le monde commande à la femme. Le vieux, la vieille, etc., etc. Tout le monde. La femme, il n'y a pas de. Qu'elle esclavage, elle travaille. Mais de temps en temps, quand on fait maintenant les plis ou quelque chose comme ça, elle chante elle-même. Elle chante. Bon, cette chanson, comme j'ai dit tout à l'heure là, c'est un message, c'est une lettre. Maintenant, les hommes, ils chantent ça. Et là, Sayem Ramadan ou Shahwala. Parce que le Sayem Ramadan, attends, c'est ma'na.
D'accord, Abdallah Menaï, on comprend pourquoi vous avez émigré. Si vous êtes en France, vous avez un travail très dur, vous peinez justement dans la tâche qui vous incombe, mais vous êtes assez rusé puisque vous dites il faut que je fasse autre chose pour pouvoir gagner mieux ma vie, c'est-à-dire la ferronnerie.
Bah voilà, comme je vous dis, quand j'étais en France, j'étais à Cavaillon, le mois de janvier, le lendemain, je travaille. J'ai pris un travail, j'ai travaillé chez Fournier, avec beaucoup de gens de l'Oued, bien sûr. Et ben voilà, je souffre dans le travail, c'est un travail pénible, un travail très dur. J'étais jeune, j'étais scoutisme, j'étais le fils de maman. Enfin, à l'époque, hein, pas maintenant, le fils de maman, c'est autre chose. Bon. Alors là, je trouve qu'il est dur, parce que j'ai gagné un peu d'argent, c'est pas beaucoup, j'ai gagné un peu. Moi, c'est beaucoup, mais je ne savais pas. Parce que mon père, après des années, je trouve mon père qui travaille. Je travaille à la compagnie de tramway à Tunis, et il gagne 17 000 par mois. Et moi, j'ai envoyé à ma mère plus que 25 000, 27 000. Oh, ma mère, c'est pour ma mère. Mais moi, je ne savais pas. Moi, je garde un peu d'argent et le reste. Et ma mère, parce que voilà, grâce à elle que je suis mené à Abdallah actuellement. Bon, À l'époque, j'ai pris le métier de soudure. J'étais à Maubeuge, j'étais à
Limite. Après, on a des changements, etc. Jusqu'à aux dernières périodes où on a carrément la bande du dromadaire, etc.
Monsieur Amoukhan Salah, il faut rappeler aussi à nos amis auditeurs que la région de Djanet, comme le rappellent les très nombreuses gravures rupestres du Tassili qui entourent donc Djanet, il y avait des populations installées, ils étaient chasseurs, cueilleurs, et sa végétation et la faune étaient donc luxuriantes. Djanet a autant d'années?
Bon, maintenant, si on remonte à, par exemple, la ville de Djanet, parce qu'autour de Djanet, on a des sites archéologiques donc, qui datent pour le plus ancien du Paléolithique moyen, qui pourraient donc dépasser les 20 000 ans d'existence. On a, avant le néolithique même, parce que généralement, toute la profusion en matière de culture, bon, c'est le néolithique, donc, bon, ça c'est lié aussi au changement dans les modes de vie. Bon, il faut savoir que dans toutes les périodes, les premières périodes de la préhistoire, donc, l'homme vivait de la chasse et de la cueillette, donc, pendant plus de 2 millions d'années, donc, pour arriver, donc, à accumuler tout ce savoir, parce que c'est de là qu'on a commencé à accumuler jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un savoir cumulé par des générations d'hommes au niveau du Tassili qui ont permis, donc à vers 10 000 ans, à l'instar des autres régions du globe, donc soit du Corse infertile ou du Japon ou d'autres régions d'Afrique, basées sur la cueillette et la chasse, et un mode de vie basé sur la production. Donc avant, l'homme était consommateur. À partir du néolithique, il est devenu producteur. Donc à chaque fois qu'il y a production, donc il y a aisance, donc ce qui fait que ça a permis aux populations de se sédentariser autour de la ville de Djanet, sur le plateau du Tassili, dans d'autres régions du parc, soit Tadrat, soit au nord à Ilizi, donc dans l'Ouadjirat, ce qui a permis donc à ces régions d'être l'un des grands foyers en matière de présence humaine.
Alors pour l'homme, le véritable témoignage ont été les gravures au cours de ces recherches?
On a des témoignages qui remontent aux premières périodes de la préhistoire. Donc, on a des objets qui datent beaucoup plus, donc à 1,5 million d'années. Bon, on a des sites pour savoir que le plus ancien site saharien, donc en matière du paléolithique inférieur, pour les spécialistes qui comprennent bien le langage, donc c'est le paléolithique inférieur, elle est située donc au nord-est de la ville d'Ilizi. Donc, c'est le site de Burj Tenkina. À l'instar du site, donc, du nord du pays, de El Hnesh ou d'autres régions. Donc, il y a eu une occupation du territoire depuis. Et ce que je vous ai dit, donc, les hommes, donc, du mode de vie de consommateurs sont passés aux producteurs à partir du néolithique, ce qui a fait qu'il y a eu production, donc, et introduction de beaucoup d'éléments, parce que même en matière de technologie, de ce que les produits de l'homme, bon, certainement, durant les périodes de les anciennes périodes de la préhistoire, les seuls témoignages qu'on a aujourd'hui, c'est les galets aménagés, c'est les bifaces, c'est les éclats, bon, c'est les différentes lames, lamelles et tout. Mais à partir du néolithique, en plus de cette industrie lithique, il y a eu introduction d'autres éléments, ce qui se sous-entend, donc, une vie de société, de petits premiers groupes. C'est à partir de là qu'il y a eu, donc, formation des petites sociétés et l'évolution vers des groupes importants au Sahara central.
Alors le parc est habité, il y a des éleveurs, des cultivateurs. Est-ce que ça pose problème pour vous en tant que directeur du parc national du Tassili?
Ce modèle parc, donc si on revient déjà à la notion parc, porté, donc c'est un modèle beaucoup plus américain. Donc avec les créations du premier parc américain vers 1870, avec le Yellowstone, etc. Bon, à l'époque, c'était une autre logique de création d'un parc des Américains de l'époque. Donc créer des régions vierges, à soustraire de toute activité humaine, à préserver, surtout en modèle de parc national, c'est préserver la biodiversité, préserver les éléments du patrimoine naturel pour, bon, en quelque sorte, préserver des richesses à exploiter ultérieurement. Pour nous, c'est pas le cas. D'ailleurs, nos parcs, soit du Tassili ou du Hogar, c'est des parcs habités. Donc, déjà, l'essence de l'existence, c'est l'homme. C'est pas, d'ailleurs, en matière de culture, même aux États-Unis, donc, les plus anciens sites ne dépassent pas les 100 000 ans. Donc, nous, l'existence, déjà, de ces parcs, leur existence, c'est l'homme. D'ailleurs, si le parc du Tassili a été créé, c'est pour préserver le produit de l'homme. C'est pas pour être contre l'homme. Le parc existe pour les populations, existe pour préserver une mémoire et une identité d'un peuple. Maintenant, le vécu des hommes à l'intérieur du territoire, c'est un territoire donc comme à tout autre territoire national. Il y a des villes, il y a des villages, il y a des nomades, il y a des gens. On veille avec eux, donc dans un esprit de participation, bien sûr, à préserver ce qu'on a à préserver, donc c'est pour les générations futures, et permettre cette articulation entre la logique de préservation et la logique de développement. Parce que notre problème à nous, donc c'est pas à la population, c'est comment articuler cette logique de préservation et de développement. Parce que la population a besoin de logements, de routes, d'eau, etc. Donc c'est pas ces infrastructures, ces projets qui sont un problème. C'est leur réalisation à l'intérieur d'un territoire qui peut poser problème. C'est pas la route, l'existence d'une route qui va poser problème, mais c'est l'exploitation des carrières, si on autorise des carrières sur des sites archéologiques. Donc, c'est pas le problème d'une canalisation pour amener d'eau. Je donnerai l'exemple de Ain Salah vers Tamil Ghassat qui est un problème. Mais c'est le tracé, si ce tracé passe sur des sites archéologiques, on va pas dévier pour préserver. Donc, et chez nous, donc, généralement, dire que le parc, il est contre le développement ou il est contre la population, parce que c'est un problème qui est mal posé. Parce que nous, c'est pas l'infrastructure, c'est pas le projet, mais c'est leur réalisation. Donc, il y a encore une autre logique, parce que nous, on est tenu de préserver. Donc, il faut pas oublier que le parc, c'est un parc qui est par décret présidentiel et qui a un mandat de préservation du premier responsable du pays, qui est le président de la République, qui donne mandat au directeur et à l'institution et au ministère de la Culture de préserver. Il ne nous donne pas de bloquer ou d'arrêter. Il nous donne un mandat de préserver. On fait cette mission de préservation avec tout le monde. Et on doit le faire et on doit respecter. C'est parce que pour nous, bon, cette culture de préservation, il y a une autre logique qui fait que les gens ne se soucient pas. Quand j'ai un projet à faire passer, marhlich, j'ai un délai. D'ailleurs, dans nos études, c'est ça, parce qu'il y a, alhamdoulilah, en 2000, il y a eu ce qu'on appelle pour les études d'impact. Avant de lancer un projet, et faire une étude d'impact, même sur l'impact sur la société. Une route, par exemple, qui va traverser un territoire de nomades qui vit que de l'élevage, vous allez leur détruire leur territoire, leur parcours, et comme ça, vous allez détruire tout un savoir, tout un héritage. À Djanet, par exemple, l'élevage, c'est l'une des ressources durables, parce qu'elle est durable si on la maintient, parce que même le tourisme partira si on ne préserve pas nos sites et tout. Donc cette ressource, il faut la préserver, mais on pourrait demander à leur douanier autre un territoire, mais c'est une logique qui ne répond pas à ça. Donc c'est tout ça qu'on veut. Celui qui fait de la conservation, d'ailleurs, il est appelé conservateur. Donc déjà, même pour les conservateurs, ils sont mal vus. On le fait parce qu'on sait qu'on doit le faire. On le fait dans un but pour le futur. Même si on protège aujourd'hui un arbre ou un animal ou une plante de disparition, on donnera que de la chance aux générations futures dont il y a encore davantage de ces plantes.
Alors justement, je reviens aux préhistoriens. Monsieur Amokran, des peuples divers se sont succédés. Qu'est-ce que vous répondez à ce monde occidental lorsqu'il arrive comme ça, particulièrement en Algérie, et ils ont eu la pression de ramener toute une civilisation?
Bon, vous me faites rire parce que j'ai lu d'ailleurs sur ça. Déjà, les premiers missionnaires qui ont approché nos régions. Donc, je vais pas parler du Nord parce qu'on sait qu'à Alger, il y avait des gens lettrés. Donc, c'est pas ce qu'on dit aujourd'hui sur la conquête d'Alger. Il y avait peut-être beaucoup plus de gens lettrés à Alger qu'en 1830. Maintenant, pour les régions du Sud, c'est encore davantage parce que les Français, lorsqu'ils étaient étonnés de trouver, par exemple, chez mes frères Touareg à Djanet ou à Tamil Ghassat, que l'instruction, que l'écriture, c'est la femme qui fait de l'instruction. Eux qui savaient, qui venaient juste de libérer leur femme, ils ont trouvé une femme qui avait déjà le savoir d'écrire, d'enseigner, de perpétuer toute une culture. Donc, on n'est pas ignorant de la langue parce que on est savant dans notre langue et dans notre culture, c'est tout. Donc, c'est pas un tort si on connaissait pas le français en 1830.
Ils nous ont rien appris, du moins.
Non, ils ont beaucoup plus tôt, beaucoup pris. Ils ont tout pris.
Monsieur Amran Salah, je rappelle que vous êtes directeur de l'Office du Parc National du Tassili, également préhistorien. Alors aujourd'hui, le parc a de nouvelles structures, de nouveaux moyens.
Oui, sur ça, bien sûr. Bon, avec mes prédécesseurs, sont jaloux de cette situation, parce que c'est vrai, donc revenir aux années 80, jusqu'aux années 90, c'était difficile de mener à bien ces missions. Alhamdoulilah, donc le ministère, donc par le biais des programmes inscrits au profit du parc national du Tassili, et donc on peut dire que il y a des moyens. Les hommes, ça manque un petit peu. Parce que, vu les conditions d'éloignement et tout, donc c'est pas facile de... on recrute, parmi les cadres, l'encadrement de Jeannette. Vous avez vu, pratiquement tous les cadres aujourd'hui de l'office sont des cadres de la région de Jeannette, soit femmes ou hommes. Mais on a toujours besoin, pour nous, parce que, qu'on va se renfermer sur nous, donc soit à Jeannette ou là, à Tlemcen ou à Annaba, on a parce que ce domaine, c'est un domaine qui demande de la connaissance, même sur le plan, l'ouverture sur le plan international, parce que en matière de préservation, de gestion, de contrôle, de protection des territoires, on a des exemples en Afrique, en Australie, et dans d'autres régions du monde où toutes ces expériences peuvent nous aider à mettre en place des politiques de gestion durable, donc qui vont dépérenniser cet héritage et, d'un autre côté, permettre un développement de toute la région.
Alors, faire participer aussi la population de Jeannette?
Oui, bien sûr. Je vais vous dire un exemple. Le dernier exemple, c'est la fête de la Spipette cette année où on a... Il y a eu aide du ministère de la Culture pour l'association de Sibipa, où un programme conjoint a été réalisé entre l'office et l'association, ce qui a donné pour cet événement, parce que nous, Sibipa aussi, on ne va pas trop parler, mais c'est un événement aussi majeur dans l'histoire de la ville de Jeannette, parce que pour nous, Sibipa, ce n'est pas seulement une danse, mais c'est pas du folklore, c'est un événement important qui donne une image de Jeannette d'une certaine époque. Donc, cette collaboration avec la population a permis de revoir, de recadrer ces choses.
On dit que c'est une fête, c'est la chute du pharaon, ça veut dire que Jeannette est plusieurs fois millénaire.
Oui, plusieurs fois millénaire. Ce qui est important pour moi, c'est pas le pharaon. Pourquoi à Jeannette, on fête la mort du pharaon? Ça, c'est important. Mais voir, par exemple, les tenues des danseurs, je vous dirais que c'est les rappels, les tenues des guerriers libyques qu'on a sur les peintures et les gravures du Tassili. Voilà. Donc, ça, c'est important pour nous. Que des berbères du sud fêtent la mort du pharaon. Ça, c'est un autre débat.
On pourrait prolonger avec vous le libyque, qui veut dire une des premières écritures, c'est ça, monsieur?
L'une des premières écritures, parce que, bien sûr, ça fait partie de notre héritage. Mais l'écriture, qui persiste encore, grâce au travail des femmes, au niveau du Tassili et du Hogar. Cet héritage, certes, notre culture, c'est une culture orale. Mais elle a une force que même la culture pharaonique n'en a pas. Parce que je vous dirais, pour terminer, le berbère existe encore, mais que la langue des pharaons...
Paraît-il qu'il y a une sœur libyque qui le...
Et c'est pas la même langue. C'est des on a l'entre le nord, le libyque, le libyque du centre, l'ouest. Elle est à la Numidie, donc on a les caractères, l'ouest, etc. Mais c'est plus d'à peu près, cette langue d'un continent, parce qu'il faut de la force de cette langue. Parce que c'est d'avoir tout un territoire, des limites de l'Égypte, de l'Oasis de Siwa jusqu'au Canaré et donc cette culture qui rayonne sur tout un territoire pareil, c'est pas aujourd'hui, c'est pas le satellite, c'est pas les images de télé, donc c'est une culture, donc il doit y avoir une force, c'est ce qu'on a tout le temps.
Si l'histoire des Touaregs est intimement liée au désert, elle l'est aussi grâce au rôle essentiel joué par la femme. Elle est aussi le vecteur porteur de l'essence de sa culture. En effet, ce sont les mères qui apprennent à leurs filles l'écriture du tifinagh, l'art de l'imzad, cet instrument monocorde, qui est joué exclusivement par les femmes artistes qui avaient seules le droit de faire vibrer cet instrument. Nous avons rencontré Belkhe Fourou, artisane, présidente d'une association féminine, Aïna Barbar, à 30 km de Djanet, une population nouvellement installée après les terribles sécheresses des années 1970. On écoute Belkhe Fourou. Aïna Barbar, à 6 km donc de Djanet, nous sommes accueillis par deux artisanes. Il y a Belkhe Fourou, qui est la présidente donc de cette association pour la sauvegarde donc de cet artisanat qui est le tissage, le tannage du cuir, puisque on tanne le cuir, on le tanne, on le teint, et ensuite il y a des motifs qui sont plus ou moins ancestraux ici à Djanet. Fourou Belkhe, qui est la présidente donc de cette association, combien d'années que vous exercez ce métier?
J'exerce ce métier qui est le tannage du cuir depuis 15 ans.
Fourou Belkhe, quels sont les produits avec quoi vous teignez?
La peinture qui s'appelle Emoura, qui nous provient du Niger, qui se dilue dans l'eau, que j'utilise selon mes goûts et mon inspiration.
Fourou Belkhe, les dessins que l'on voit sur les sacs, sur les porte-clés, c'est des signes berbères qui sont très très anciens.
Mes dessins représentent la beauté dans laquelle j'évolue. Je crée des formes et des signes pour les montrer aux jeunes filles, car le travail s'irrite de mère en fille. Et aujourd'hui, ces jeunes filles, au sein de l'association, elles ont appris à créer elles-mêmes d'autres motifs.
Justement, pour la vente de cet artisanat, est-ce que c'était difficile ici à Djanet?
Avec ce métier d'artisane, je gagne ma vie et surtout lorsque je trouve la matière première qui est le cuir.
On a compris que le commerce marche aujourd'hui. On a vu les sacs, on a vu les porte-clés, ce long tapis qui sert de paravent autour de la zriba, et c'est basé de plantes qui sont tissées. Il y a les sacs, il y a les porte-monnaies, il y a divers objets. Fourou Belkhe, est-ce qu'on peut parler d'innovation?
À Djanet, le cuir est toujours aussi prisé dans l'artisanat. Parmi mes innovations, j'ai intégré les miroirs qui ne font pas partie du patrimoine artisanal. J'ai ajouté ma touche artistique et aujourd'hui, il est intégré dans mes créations. Mes souhaits, c'est d'avoir un local plus aménagé, avoir chaud l'hiver et plus frais l'été, du cuir tanné pour travailler, car il est de plus en plus dur de s'en procurer.
Le tourisme en Algérie est considéré comme la solution magique, la panacée, pour sortir du sous-développement. Il est censé faire entrer des devises nécessaires à l'expansion des activités économiques et à la résorption du chômage. C'est aussi un facteur de transformation dans les situations sociales, culturelles et économiques. Il sert aussi à développer une véritable source d'intuition, mais aussi des rêves et d'aventures, un voyage qui s'en va bien au-delà des frontières de l'imaginaire. Adjanet, un village touristique, une petite merveille, cette reconstitution d'un ancien village, celui d'Ihrin, maison en hutte de forme dont le propriétaire en est très fier. On l'écoute. Ici à Djedet, nous nous trouvons au village saharien chez Monsieur Ahmed Abdelkader. Monsieur Ahmed Abdelkader, merci donc de nous recevoir. Ce village saharien, il existe depuis 2004 avec une capacité de combien de lits?
Bonjour, je gère le village saharien d'une capacité de 120 lits avec trois sortes de résidences. La première résidence est une résidence qui est pour les étudiants qui est sous les tentes, donc pour encourager les nationaux à venir connaître le pays avec 50% de nos prix. La deuxième résidence que nous avons, c'est la résidence de 100 des chambres simples pour les tour opérateurs avec qui on a des conventions qui ont des chambres conventionnées. Et la troisième partie, c'est la résidence avec les VIP. Comme on travaille avec de hautes personnalités, j'hésite par exemple les diplomates, les ambassades, les attachés militaires, etc., qui viennent séjourner ici, on leur fait prestation VIP.
Quel genre de nationalité vous recevez?
En statistique, on reçoit la majorité, c'est des Allemands, après les Français, après les Italiens. Mais depuis, je dirais carrément sans faire la politique, depuis l'arrivée du deuxième mandat de Bouteflika, les relations se améliorent de plus en plus et maintenant en statistique, on a des Français. Les Français passent en première statistique après les Italiens.
Monsieur Ahmed Abdelkader, ce village saharien, il est inspiré d'une zeliba d'ici à Djanet.
Voilà, ce village saharien que je construis, initié de mes idées, parce que moi je suis né sous une hutte qu'on appelle Ekabar, qui est faite avec les moyens locaux, qu'on appelle le tahlé, le roseau. Et puis après, j'ai amélioré parce que moi personnellement, je suis né en 1948 dans cette hutte qu'on appelle Ekabar, qui est froid en été et chaud en hiver.
Vous avez justement construit ces huttes, enfin ces formes de chambres, avec les matériaux locaux?
Alors on a construit tout ça avec les matériaux locaux, dont le roseau qui existe actuellement à Ihrir, à Afara, dans la région de Tassinagère. Et certaines constructions en VIP sont faites sur base de la pierre de la région, bien sûr.
Effectivement, c'est un très joli village saharien. On y trouve même un sauna, une salle de relaxation. L'endroit est très beau. Est-ce que le tourisme marche actuellement, vu la crise économique?
Oui, depuis 2004, l'ouverture officielle de notre village saharien, on a une capacité d'accueil qui permet de recevoir toutes sortes de personnalités, comme on fait des voyages anti-stress. La majorité des gens qui viennent ici pour déstresser, pour oublier leur vie quotidienne. Donc, alors c'est pour cela qu'on a ajouté à notre prestation hammam à vapeur, le sauna, une salle de massage à rayon infrarouge. Nous avons aussi, pour permettre aux clients d'avoir tout à la portée de la main, nous avons une cafétéria avec la terrasse à plein air. Donc, le client, lorsqu'il arrive ici, il a tout à sa disposition.
Let's go.
Le village fonctionne de septembre à mai. Pourquoi pas les autres mois?
Alors, notre village fonctionne et tous les agences de voyage de octobre jusqu'à fin avril, maximum 15 mai. Pourquoi? Parce que pendant l'été, vous savez, il fait très chaud. Nous avons deux scorpions dans cette région. Nous avons des vipères. Et à ma connaissance, il n'y a aucune assurance qui couvre pour le morsure des vipères qui sont mortelles pendant l'été. Donc, alors, on préfère pendant l'été s'abstenir et reprendre notre activité pendant l'hiver.
Lorsqu'on est dans votre village, on a aussi la possibilité de faire des circuits.
Voilà, avant tout, nous sommes une agence de voyage qui est opérationnelle depuis 88, dont on a eu un trophée d'or du tourisme en 1995 à Barcelone, à Madrid.
Beaucoup d'agences de tourisme existent ici, dans la wilaya de Lizip, précisément à Janet, et beaucoup ne sont pas opérationnelles. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de tourisme.
Certes qu'à l'époque, on était 5 ou 6 agences. Et parmi maintenant, on est une quarantaine d'agences. Dans les quarantaines d'agences, il y a 4 ou 5 professionnels. Maintenant, c'est pas n'importe qui peut faire une agence de voyage. Premièrement, il faut du caractère. C'est pas parce qu'on a une licence de voyage qu'on est un agent de voyage. À l'Europe, le tour opérateur sélectionne leurs réceptifs en Algérie ou dans le monde entier, suivant certaines qualités. Et même certains tours opérateurs viennent ici pour faire le voyage de reconnaissance, viennent voir avec comment vous travaillez, comment vous opérez. Donc, alors, certaines personnes ne peuvent pas avoir le client comme ça. Sauf que maintenant, certes, avec un grand nombre de gens qui ne sont pas du métier, qui ne sont pas du métier du tourisme, qui ne connaissent absolument rien à ce secteur de tourisme, alors qu'il nous faut une concurrence déloyale. C'est-à-dire, je m'explique, une concurrence déloyale, pourquoi? Parce que premièrement, en toute franchise, ils cassent les prix, ils font n'importe quoi, et ça, je suis pas d'accord parce que ça déshonore le pays, avant tout.
Vous voulez dire que la concurrence déloyale, ils cassent les prix pour que peut-être ça devienne un peu plus abordable, c'est ça?
Non, parce que premièrement, ils n'ont pas des charges, ils n'ont pas investi dans ce secteur de tourisme, ils n'ont aucune infrastructure d'accueil, ils font de n'importe quoi, et alors le client qui arrive la première fois, il revient pas après, il vient pas, il fait ça, et il voit que ça va pas, il revient pas, et la meilleure publicité au monde maintenant, c'est du bouche à oreille, l'internet, et là les gens en parlent autour d'eux. Que telle agence, vous pouvez aller, telle vous parlez, comme ce qui se passe actuellement en Algérie pour le pèlerin, pour la Mecque et l'Ombra. Les gens, ils vont pour la première fois avec telle agence et après, ils ne reviennent plus. Comme on fait plusieurs sortes de prestations, nous avons un circuit en 4x4, nous avons un circuit en dromadaire, ce qu'on appelle la Méharé, nous avons le circuit en randonnée chamelière. Nous avons le circuit sur le plateau Tassili, sur le Trace d'Angrelotte à 1800 mètres d'altitude. Chaque circuit se caractère à ses prix. Et en plus, il faut avoir un nombre de personnes pour faire un devis. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça, on peut pas, ça se calcule sur des bases de personnes, sur ce que la personne veut faire et ce qu'elle a envie de faire.
Alors, quels sont vos souhaits justement pour l'année 2009?
Mes souhaits pour l'année 2009, c'est le souhait de tout le musulman, c'est avoir la paix au monde, dans le monde premièrement, la stabilité et avoir plus de clients pour les agences de voyage de l'extrême sud qui vit spécialement du tourisme, à savoir Gardaïa, Tamarassat, Elizi et Adrar.
En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci de nous avoir accueillis.
Et merci à vous aussi.
pour nous souhaiter la bienvenue, les femmes d'Ihrir nous interprètent quelques chansons avec le tindi, instrument musical, tambour. Il sert de rythme au chant, généralement interprété par les femmes. La littérature orale des Touaregs est fort riche et témoigne d'un sens poétique extrêmement développé. Poésie des fables, textes en prose, mais la poésie reste l'inspiration philosophique la plus fréquente par le peuple Touareg. On écoutera Djam.
C'est la troupe féminine d'Ihrir, interprète donc le tindi avec Khadija qui a ce bidon, ce fameux bidon qui a traversé des continents puisqu'ils sont allés au Japon, en Turquie, en Chine pour représenter la culture donc Touareg. Et aussi le genre tindi. Khadija, vous chantez depuis combien d'années ?
Je chante depuis l'âge de 23 ans. J'ai appris le tindi auprès des femmes au cours des mariages. À mes débuts, j'interprétais des chants du terroir à la Zaouyat Imassini, et c'est là que j'ai créé ma troupe, une seule association qui fait le tindi et le tahmet.
C'est la seule association et c'est le seul groupe ici à Ihrir. Khadija, vous avez beaucoup voyagé grâce à cette musique. Vous avez fait un peu le tour du monde. Vous êtes allée au Japon, en Chine. Comment c'était ?
Le public a été très réceptif à notre musique et la troupe a ressenti une grande fierté d'avoir représenté notre patrimoine.
Vous avez appris quelques mots en japonais ?
Vous avez voyagé avec nous au-delà des frontières de l'imaginaire. La semaine prochaine, nous le poursuivrons. Et si vous êtes là, alors ce sera bien. Merci à Aldouane Akli pour sa collaboration.
Yeah, I didn't hear it. Yeah.